Bonsoir, messieurs, dames. Merci d'avoir franchi les tempêtes de neige pour être venus jusqu'ici. J'espère que vous pourrez rentrer ce soir Nous allons aujourd'hui, dans cette quatrième leçon concernant la plasticité et la vicariance, traiter de la réhabilitation ou de la rémédiation des troubles du développement cognitif et moteur chez l'enfant et la personne âgée. Alors, je précise que je ne suis pas médecin, je ne suis pas un spécialiste du développement et ni d'ailleurs du vieillissement. Mais il m'a paru intéressant que nous examinions ensemble, dans cette série, les problèmes de la possibilité d'offrir à la fois à l'enfant et à la personne âgée des possibilités de récupérer des fonctions, soit qu'elles soient dues à des déficits génétiques, soit si elles sont dues à des lésions ou simplement aux effets de l'âge, en utilisant les concepts et les idées et les résultats récents des neurosciences tels que nous les avons examinés ensemble dans les premières leçons. Je ne rappellerai pas ce que nous avons déjà dit, mais au fur et à mesure de l'exposé, nous aurons l'occasion de faire quand même quelques rappels. Et tout d'abord, je vais vous faire, pour ceux d'entre vous en tout cas qui ne sont pas physiologistes, ni anatomiste, quelques rappels d'anatomie et de physiologie sur les bases neurales de l'apprentissage moteur, sensoriel ou mental. C'est un champ énorme, il faudrait des heures pour résumer ces données des neurosciences et de la neurologie moderne. Je vais donc simplement vous montrer quelques résultats ou quelques propositions théoriques même récentes qui me paraissent pertinentes par rapport aux questions que nous nous posons et qui donneront à ceux d'entre vous qui n'ont pas l'habitude de les voir quelques idées au moins de l'organisation du fonctionnel du cerveau et de la façon dont on discute aujourd'hui. D'abord, ce schéma montre l'intervention d'un certain nombre de structures du cerveau, le cortex moteur, l'aire motrice supplémentaire, qui est ici à la partie médiane et supérieure du cerveau, qui est impliquée dans l'anticipation, la préparation de l'action, l'aire motrice supplémentaire préfrontale, c'est-à-dire celle qui est juste en avant et qui appartient au système préfrontal, que l'on voit activer lorsqu'on, par exemple, qu'on commence à faire une séquence motrice et dont l'activité disparaît lorsque on l'a surapprise, par exemple, témoin de la flexibilité, du fonctionnement cérébral, et puis le cortex préfrontal, dont nous avons déjà beaucoup parlé, qui est impliqué dans l'intégration de toutes les informations du cerveau et où se prennent des décisions, etc. Et ici, les structures sous-corticales, le cortex pariétal postérieur, qui reçoit toutes les informations sensorielles sur le corps, le monde, etc. Alors, ce schéma a pour objectif de montrer, au fond, surtout la multiplicité des boucles qui lie toutes ces structures, et peut-être de proposer, en plus des fonctions qui sont indiquées ici, la représentation des éléments, association élément par élément, intégration éventuellement ou transformation en éléments, chunks, et puis la répétition, en plus de ces fonctions. Et là, pour introduire l'idée que le cerveau n'est pas seulement peut-être une structure qui fonctionne de façon hiérarchique, notion sur laquelle j'ai déjà beaucoup insisté, mais aussi, on pourrait dire, hétérarchique, qui est une notion que j'ai déjà proposée dans un ou deux bouquins, à savoir qu'il y a aussi des fonctionnements à la fois cortico-cortical, mais aussi dans ces boucles liant les structures sous-corticales aux structures au cerveau. Donc, c'est simplement un schéma un petit peu général pour ceux d'entre vous qui ne sont pas habitués. Ce deuxième schéma vous rappelle le rôle extraordinairement important d'une structure qui sont les ganglions de la base dans la sélection de l'action et donc qui vont être concernés par cette flexibilité, cette capacité de réorganiser les mouvements avec les structures du cortex temporo-occipital, le cortex moteur, le cortex prémoteur, il y avait le SMA et les deux aires dont on vient de parler ici, et le cortex préfrontal, l'hippocampe, et ces structures que sont les ganglions de la base, ici, qui, comme vous le voyez, sont impliqués dans ces boucles qui, en permanence, lient les ganglions de la base, le cortex, avec des informations qui retournent. Et vous savez que les informations sensorielles sont toutes envoyées à travers le thalamus vers le cortex et vont circuler dans ce circuit fermé en permanence. Et il y a ainsi au moins 5 boucles fonctionnelles qui concernent les mouvements des yeux, les mouvements du corps, l'émotion, etc., et qui contribuent au rôle de ces ganglions de la base, avec en plus le cervelet et l'amygdale impliqués dans les émotions. Et le dernier ou l'avant-dernier, un des avant-derniers schémas que je vous montrais là-dessus, a été déjà décrit par le professeur Anne Grebille, qui est venu faire la première conférence, le premier séminaire de la première leçon de cette série. Et vous vous souvenez peut-être que Anne Grebille a fait sa conférence, pour ceux qui ont pu être là, sur l'acquisition des habitudes, des rituels, et a beaucoup insisté sur cette, à la fois la rigidité des habitudes extrêmes et en même temps la flexibilité. Et vous retrouvez ici la boucle que je viens de montrer, liant les ganglions de la base avec le cortex, avec une entrée importante de neuromodulateurs, et en particulier la dopamine, dont vous entendrez de nouveau parler dans l'exposé du professeur Forsberg tout à l'heure, puisqu'il montrera l'effet de l'entraînement sur la neuromodulation par la dopamine. Et puis les sorties vers les structures de l'action. Et en même temps, cette série sur laquelle elle avait beaucoup insisté, qui détermine les addictions, les habitudes extrêmes qui figent en quelque sorte les gens dans des habitudes où ils ne peuvent plus sortir. Cette flexibilité, ce déplacement en quelque sorte du rôle des différentes structures du cerveau qui sont acquises au cours de l'apprentissage et qui avaient été d'ailleurs à l'origine démontrées par nos collègues suédois dans des expériences tout à fait intéressantes sur l'apprentissage, Anne Grebille l'a aussi illustré en nous rappelant ces déplacements de l'activité qui se produisent au cours de l'activité entre les structures préfrontales et les structures frontales, par exemple. Donc, il y a une neuroscience moderne qui nous donne quand même des indications. Mais il y a aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant, encore de grands chantiers. Et par exemple, j'ai choisi cet article de Paul Cizek, paru récemment en 2007, qui remet en cause les taxonomies classiques sur les cycles perception, cognition, action. Et vous avez ici une espèce d'arbre qui représente, d'après lui, la façon classique de concevoir la trilogie perception, cognition, action et les sous-divisions des différentes fonctions qui sont remplies respectivement par la perception, la cognition, l'action, donnant lieu à ces différentes fonctions, reconnaissance des objets, mémoire spatiale, génération de trajectoire, etc., pour le bras. Et Cizek a proposé une nouvelle taxonomie sur laquelle il propose, au fond, une dichotomie entre ce qu'il appelle des fonctions de spécification de l'action, c'est-à-dire, comme vous le voyez ici, toute une série de fonctions comme la saisie, l'atteinte, la course, etc., et la sélection des mécanismes de sélection de l'action avec des mécanismes attentionnels de décision et d'affect. Cette image, simplement pour montrer qu'aujourd'hui encore, il y a une discussion au sein des neurosciences sur l'organisation de la répartition de responsabilités dans ces différentes structures. Et la raison aussi pour laquelle je montre cet article de Cizek, c'est que notre collègue Richard Andersen, que les spécialistes ici connaissent, à Caltech, a utilisé avec un jeune chercheur très brillant, dans des expériences faites chez le singe, de tâches visuo-spatiales, ce deuxième schéma pour essayer d'interpréter les données neuronales d'expériences d'interaction visuo-spatiale. Donc, il ne s'agit pas simplement d'un modèle pour faire plaisir à un conférencier qui montre des choses compliquées, mais en même temps des modèles sur lesquels des neurophysiologistes aujourd'hui essayent d'accrocher en quelque sorte, avec lesquels ils essayent d'interpréter de façon nouvelle les données neuronales chez le singe. Et Čižek, dans son article, a donc proposé l'idée que, au fond, dans ces grandes structures, le cortex pariétal, que vous voyez ici à gauche au lieu d'être à droite, le cortex prémoteur, le cortex préfrontal, les ganglions de la base, etc., l'organisation et le traitement de l'information sensorielle ne seraient pas sériels, comme c'est prédit dans des modèles classiques, mais parallèles. Et cette idée le conduit aussi à proposer l'idée que, par exemple, le système visuel dorsal, celui qui est classiquement le système du « où sont les choses », puisque vous savez qu'on a démontré qu'à partir du cortex visuel, les informations sont divisées en un système ventral qui spécifie l'identité des objets, des visages, des gens, et un système dorsal qui spécifie le « où ». Eh bien, il propose l'idée que dans ce système dorsal, les actions sont spécifiées, mais vont être en compétition, en quelque sorte. Et c'est un modèle tout à fait nouveau sur lequel nous n'avons pas le temps de nous attarder, mais les spécialistes pourront regarder cet article pour voir le détail. Un autre exemple de cette idée intéressante, à mon avis, aujourd'hui, qu'il existe en fait des processus parallèles et pas seulement sériels de traitement de l'information, qui n'est pas nouvelle vraiment, mais qui est en train d'être élaborée en quelque sorte, est illustré par cet article de nos collègues japonais, Iko Saka, qui est un très grand spécialiste aussi d'ailleurs des ganglions de la base, paru en 1999 déjà, et qui lui avait dans des tâches dans lesquelles le singe devait faire des tâches séquentielles de manipulation sur un écran de cible, donc de séquencement d'actions manuelles. Eh bien, il avait proposé déjà l'idée qu'il y avait en fait deux réseaux parallèles pour l'apprentissage de procédures séquentielles. Un réseau qui traiterait les coordonnées spatiales et un réseau qui traiterait les coordonnées motrices. Et vous retrouvez ici les aires motrices supplémentaires, etc. Et on pourrait retrouver différentes aires impliquées dans le mouvement. Donc il y a toute une richesse en ce moment encore de ces modèles, et j'ai trouvé amusant, puisqu'un certain nombre de personnes dans l'assistance et moi-même sommes intéressés actuellement par l'interface avec la robotique, qui intéresse aussi d'ailleurs les gens qui font de la réhabilitation, de vous montrer cet article publié dans le très sérieux journal PLOS Computational Biology en 2008, donc récent, de Yamashita et Tani, qui sont des spécialistes aussi de ces questions. C'est un modèle original d'apprentissage sensorimoteur en robotique humanoïde que je ne vous détaillerai pas, mais c'est pour vous mentionner cette activité extrêmement intéressante qui existe actuellement chez nos collègues roboticiens sur l'organisation finalement idéale ou optimale de la sélection de l'action, de la planification, de la flexibilité chez ces robots humanoïdes. Et ce modèle est différent, se veut être différent, car il n'utilise pas ce que nous appelons, nous, dans le domaine de la physiologie motrice, des primitives motrices, c'est-à-dire en fait des synergies de base. Et nous avons eu l'occasion d'entendre Tamar Flash, qui est venu ici faire des conférences sur cette question des primitives. Il n'utilise ni des primitives ni des modules séparés. Il n'utilise pas non plus des structures hiérarchiques, mais il insiste sur la possibilité que des hiérarchies fonctionnelles émergent en quelque sorte dans des modèles auto-organisateurs avec des calculs extrêmement compliqués, qui utilise la simultanéité, donc des variables temporelles. Et cette idée d'auto-organisation est évidemment n'est pas nouvelle, puisque déjà, non seulement Varela, mais l'idée que le cerveau est en partie autopoïétique, avec Di Maturana, est dans la littérature, et par conséquent, vous voyez qu'il y a là vraiment un chantier important. Et pour terminer cette introduction, je vous montre ce schéma que malheureusement ceux qui sont à loin ne peuvent pas lire, et je vous demande de m'en excuser, mais il était assez compliqué, j'ai voulu vous le montrer quand même, parce qu'il a été publié par notre collègue Marc Jeanneret, un grand spécialiste français du contrôle moteur et de tous ces problèmes, publié dans la revue neurologique en 2008, qui insiste sur le rôle du lobe frontal, des fonctions exécutives, des mémoires de travail, dont vous entendrez parler de nouveau dans l'exposé du professeur Forsberg tout à l'heure, dans l'apprentissage, avec l'idée que pour les actions préparatoires des habitudes interviennent toute une série d'étapes, en quelque sorte, dans lesquelles interviennent ces différentes fonctions importantes de la préparation de l'action, etc., dont nous avons parlé et dont nous reparlerons. Donc il y a un véritable jardin de propositions plus ou moins compliquées là-dessus. Et c'est important de rappeler cela parce que l'idée générale de cette série de cours est, je vous le rappelle, l'idée que lorsqu'il y a une lésion, qu'elle soit d'origine génétique ou qu'elle soit tardivement arrivée ou qu'elle soit due éventuellement aux effets de l'âge, eh bien, le cerveau va pouvoir trouver des solutions nouvelles, va pouvoir utiliser ces multiples circuits pour la compensation des déficits. Et cette capacité du cerveau de n'être pas figé au moment de la naissance, mais d'être le siège de modifications dans la connectivité, dans le rôle de chacune de ces structures, est aussi illustrée par quelques données sur l'enfant qui seront tout à l'heure reprises par le professeur Forsberg, mais sur lesquelles je vous montrerai simplement deux ou trois choses. J'ai eu l'occasion d'en parler déjà dans les années précédentes, et je vous avais déjà rappelé que dans les travaux sur le développement des fonctions et des capacités cognitives de l'enfant, eh bien il y a là aussi plusieurs théories qui ne sont d'ailleurs pas mutuellement exclusives. Il s'agit ici d'un papier de 2001 de Johnson, une Nature Review, qui rappelait que ce développement des relations entre les différentes parties du cerveau et des fonctions cognitives peuvent être, par la maturation d'une simple région, peut être aussi dû à l'interaction entre plusieurs régions, et à ce moment-là, la maturation, c'est non seulement la connectivité, la matière blanche, par rapport à la matière grise, les fibres, c'est très important, mais aussi la mise en correspondance des fonctions de ces différentes régions qui chacune va faire des traitements séparés, ou bien éventuellement la création en quelque sorte de nouvelles habiletés par l'apprentissage, par exemple ici l'addition du cortex pariétal inférieur à un réseau qui donnera une capacité nouvelle pour des tâches visuomotrices, etc. Donc déjà, dans une littérature qui était ancienne, il y avait cette idée de plusieurs possibilités pour assurer cette maturation, et donc pour le propos qui est le nôtre, l'idée que le cerveau pourra, grâce à l'interaction avec le milieu, etc., et nous reparlerons la prochaine fois du rôle fondamental de l'enrichissement dans le développement, peut trouver des solutions variées. Alors un travail récent a repris ces idées, et dans un travail publié l'année dernière dans PLOS Computational Biology en 2009 de Fair et ses collaborateurs, ils ont examiné quatre réseaux qui sont illustrés sur cette image par les flèches n'ont pas été montrées parce que c'était trop compliqué, mais ils ont mis des couleurs sur les quatre réseaux qu'ils ont distingués: un faisceau singulo-operculaire, un faisceau fronto-pariétal qui est très classique, voir toutes les données sur ces réseaux frontopariétaux, un réseau appelé default, c'est-à-dire un réseau qui est activé lorsqu'on ne fait rien, et vous savez qu'il y a une littérature considérable actuellement qui est sortie depuis 4 ou 5 ans sur ces activités quand on ne fait rien en principe, mais pendant lesquelles le cerveau fait beaucoup de traitements, et un réseau qu'ils appellent cérébelleux. Et ce qui est intéressant, n'ayez pas peur de la complexité de l'image qui vient, mais je vous la résume très très brièvement. Ce que ces auteurs proposent comme théorie computationnelle, mais basée sur des données empiriques en tout cas, c'est l'évolution entre 8 ans à peu près, 13 ans et 25 ans, des relations qui existent entre ces différents réseaux. Ils sont représentés par leurs couleurs sur cette image, vous voyez, noir, singulopurculaire, jaune frontopariétal, rouge défaut, bleu cérébelleux. Et vous avez en plus un codage des lobes du cerveau, le lobe frontal entouré de bleu, le lobe pariétal entouré de mauve, il est là caché par là, le temporal de vert et le cervelet qui est ici. Et ce que proposent ces auteurs, d'après la littérature, c'est l'idée que chez les enfants, les régions sont organisées principalement par leur localisation anatomique. C'est la topologie de proximité, en quelque sorte, qui dominerait. Et au fur et à mesure que se développe la maturation du cerveau de l'enfant, ces régions sont fonctionnellement ségrégées, se divisent. Et vous voyez que, par exemple, tout le lobe frontal, ici, les régions, les neurones dans ces régions, se retrouvent fonctionnellement dans trois zones au lieu d'une. Donc, une évolution qui conduit à une ségrégation, en quelque sorte, fonctionnelle au cours de l'âge. Mais en même temps, ils décrivent l'idée que, souvent, chez l'enfant, des circuits fonctionnels sont disconnectés, sont peu connectés, et qu'au fur et à mesure, se produisent toutes ces intégrations, ces connexions que nous avons évoquées dans une des diapos précédentes. Donc il existe, vous voyez, des modèles sur ces questions, et encore une fois, n'ayez pas peur de la prochaine diapo, elle est compliquée, vous ne pouvez pas lire tout ce qu'il y a ici, mais je vous résume l'essentiel de ce schéma extrêmement intéressant. Sur la gauche, il y a un espèce de cube ou un parallélépipède qui, de haut en bas, porte les noms d'un très grand nombre de structures du cerveau. Tout en bas, le cervelet, le thalamus, le cortex préfrontal, le cortex frontal, le cortex temporal, en vert. On retrouve ces structures sur la droite, ici, cervelet, etc., de bas en haut. Et entre les deux, au fond, dans le mur du fond de cette scène, c'est la transition qui se produit dans les relations qui existent entre toutes ces structures, entre l'âge de 8 ans et l'âge de 25 ans, avec des zones, des aires pour lesquelles il y a peu d'évolution et d'autres dans lesquelles il y a une redistribution fonctionnelle des connexions, soit sur la base de leur distance, soit sur la base de leur proximité au niveau de la fonction. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, et en particulier par exemple, l'idée que les connexions de proximité tendent à disparaître au fur et à l'âge, et au contraire que des connexions à distance tendent à se refaire, à se constituer, comme cela a été déjà évoqué sur le schéma précédent. Donc ceci est intéressant parce que cela donne, même si ça reste hypothétique ou théorique pour une part, cela donne un schéma général, si vous voulez, qui permet, quand on a des données comportementales sur des patients, sur des enfants, sur des adultes, d'essayer de faire cette corrélation entre le comportement d'une part, les données toujours ponctuelles que donne l'imagerie, où on voit deux ou trois zones, et une vision peut-être un peu plus globale de ces grandes transformations. Ça n'est pas définitif, mais c'est intéressant. Alors, quelques exemples maintenant, sur des sujets très limités, de de ce qui se produit lorsque, après des lésions, de ces mécanismes de compensation après lésions. Et comme j'ai déjà parlé de la locomotion, et comme dans notre laboratoire, nous nous intéressons beaucoup à la locomotion, d'autant plus que nous avons travaillé depuis 8 ou 10 ans pour essayer de montrer que les principes qui contrôlent le mouvement du bras, par exemple, sont en partie communs avec ceux qui contrôlent la marche de façon générale, je vous donne quelques exemples de mécanismes ou d'effets qui peuvent intervenir dans la compensation de la locomotion. Alors, je vous rappelle que des données comportementales faites aussi bien par les équipes de Marc Jeanneret, par d'autres, par De Setti, par Pozzo et al. Ont montré déjà la fameuse isochronie entre la marche réelle et la marche imaginée, c'est-à-dire si je me mets à marcher jusque tout autour de ce bureau, et puis qu'ensuite je me remets ici et que j'imagine que je marche, eh bien, il a été montré qu'on prend à peu près, avec des facteurs de, évidemment, de proportionnalité parfois, à peu près le même temps mental pour imaginer la marche que l'on fait que pour la réaliser. Donc il y a déjà des données comportementales nombreuses sur le fait que des mécanismes semblables peuvent intervenir dans la marche, et même l'équipe de Jeanneret avait montré que si on met un gros sac à dos sur la personne pendant qu'il marche, eh bien, il va marcher plus lentement, dépenser plus d'énergie, et si ensuite on lui demande d'imaginer qu'il marche avec tout ça, eh bien, on a des effets qui sont très semblables. J'ai aussi montré dans le deuxième cours, je crois, ou le premier, quelques données sur la marche imaginée que je vais reprendre dans un instant. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, et c'est un travail fait par nos amis et collègues de Rome, Ivanenko et al., dans le laboratoire de Francesco Laquaniti. Ce travail date de 2004, sur la compensation de lésions de la moelle épinière chez les patients ayant donc des lésions. Et ils ont cherché à étudier la plasticité des patterns locomoteurs, c'est-à-dire comment ces patients qui ont des lésions de la moelle épinière récupèrent la locomotion lorsqu'il la récupère. Vous savez que c'est aussi un champ extrêmement large dans lequel il y a beaucoup d'équipes qui travaillent, au Canada, en Suède, en Suisse, dans pratiquement la plupart des grands pays qui font des recherches sur ces sujets. Mais voilà l'expérience qui a été faite ici. Par exemple, ça n'est vraiment qu'un exemple, ils ont étudié la récupération après entraînement. En plus particulièrement de ce qui s'appelle la poulaine, c'est-à-dire la forme que prend le cycle moteur du pied ici, qui d'ailleurs, je le dis en passant pour ceux qui sont intéressés par ces choses-là, obéit à la loi de la puissance de 1/3 ou 2/3. Et voici la forme qui est la forme de ce mouvement chez le sujet de contrôle. Voici chez un patient la forme du mouvement donc après lésion, et c'est complètement désorganisé, et voici la récupération qui se produit au cours de cet entraînement. Alors, ce qui est intéressant dans le travail de l'équipe de Ivanenko, ça n'est pas seulement d'avoir décrit cette récupération fonctionnelle, mais d'avoir aussi étudié un certain nombre d'indices de l'organisation centrale ou périphérique de la marche, et en particulier d'avoir étudié ce qui s'appelle la covariation planaire, puisque vous savez que, comme c'est le cas pour le bras, pendant la marche, il y a une covariation entre l'angle d'élévation du pied, de la jambe et de la cheville, enfin ici, et de la cuisse. Ces trois paramètres, si on les porte au cours d'un cycle locomoteur sur trois coordonnées, on obtient chez le sujet contrôle qui est ici, on obtient un plan qui est, c'est-à-dire qu'au cours du cycle locomoteur, l'ensemble de ces trois angles décrivent c'est pas une ellipse, c'est un cycle qui est dans un plan, ce qui est le signe ce qu'on appelle un blocage phase locking en anglais, d'une relation extrêmement étroite qui a été étudiée largement. Eh bien, chez les patients, cette relation entre ces trois angles est désorganisée, et ils ont montré la récupération après l'entraînement. Vous voyez, voilà le premier, ce sont trois sujets. La récupération de cette forme canonique, en quelque sorte, et de ce plan qui indique bien que le sujet a retrouvé une coordination entre le pied et les angles de la jambe de la locomotion. Donc la géométrie et la cinématique et la géométrie a été récupérée. Ils ont aussi montré, en enregistrant l'activité d'un très grand nombre de muscles, la récupération lors de cette récupération fonctionnelle, les patterns de l'électromyographie. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est indiqué dans ce schéma un petit peu compliqué, c'est le fait que c'est l'activité électromyographique pendant les deux phases de la locomotion, c'est-à-dire ces swings, et à tous les niveaux de la moelle, depuis le niveau lombaire, ici, jusqu'au niveau du cou, C3, C4. Ils ont donc enregistré l'activité musculaire, et voici donc le pattern électromyographique de l'activité musculaire pendant ce cycle locomoteur chez un sujet sain contrôle. Et voici ce qui se produit chez ces patients après récupération, avec, comme vous le voyez, des redistributions extrêmement intéressantes de l'activité. Alors là aussi, nous n'avons pas le temps d'entrer dans le détail, mais vous avez là tous les auteurs de ces papiers et la référence de l'article pour ceux qui sont intéressés. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont montré, grâce à ces méthodes, on peut, au fond, reconstituer non seulement, comme ils l'ont fait aussi, les primitives de la locomotion, car ils ont cherché aussi à décrire quels sont les éléments constitutifs des programmes moteurs de la locomotion. Ils ont d'ailleurs décrit 5 programmes, d'autres pensent qu'il n'y en a que 3, en utilisant des techniques d'analyse statistique, PCA, etc., pour les spécialistes. Mais il y a donc un outil qui montre à quel point les personnes peuvent réorganiser cette activité, et chacun un peu suivant sa propre stratégie. Alors maintenant, je voudrais, comme je l'ai promis, vous montrer quelques données sur la récupération fonctionnelle chez la personne âgée. Alors je vous rappelle, pour la locomotion, la marche, la posture en général, d'abord, je voudrais vous rappeler que la chute est la troisième cause de mort chez les personnes âgées après les maladies cardiovasculaires. Et c'est donc une cause extrêmement importante de décès. Et on ne tombe pas, quand on est âgé, uniquement parce qu'on a les muscles faibles. On tombe souvent dans des tâches locomotrices lorsqu'il s'agit d'intégrer des mouvements avec la marche, et par conséquent, il est intéressant d'aller regarder à la fois les déficits de la posture et les déficits de la marche, et l'intégration des deux, et l'intervention aussi de tous les processus de décision. Alors, de nombreux travaux ont été consacrés à ces questions depuis quelque temps, et en particulier, je voulais citer à ceux qui sont intéressés l'existence d'une communauté maintenant internationale extrêmement solide. Elle n'est pas neuve, elle a été créée il y a presque 10 années. Nous avions, avec des collègues comme Faye Horak, Thomas Brandt et autres, fondé la société qui s'appelle Posture and Gait, qui a eu son dernier congrès à Bologne et qui en a régulièrement, et qui réunit maintenant plus de 300 personnes du monde entier sur ces questions. Et sur aussi une autre société qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de ces leçons, qui s'appelle Mental Control of Gait, et qui a été faite à l'initiative d'un psychiatre israélien, de Faye Horak et de quelques-uns des chercheurs ou d'entre nous, pour étudier plus particulièrement la relation entre les aspects moteurs et les aspects cognitifs dans le contrôle de la marche, qui, encore une fois, sont un des sujets d'intéresser de notre collègue Forsberg. Et il y aura d'ici dans un mois, ou il y aura dans très peu de temps, un congrès à Washington sur ce sujet. Alors en France, évidemment, un certain nombre de gens étudient ces questions, et notamment dans l'équipe de la Salpêtrière, Madame Belter, qui travaille actuellement beaucoup sur ces questions. Donc l'hypothèse que nous suivons dans cette démarche, c'est quel est le rôle possible dans ces récupérations fonctionnelles, dont nous avons vu un exemple tout à l'heure avec les travaux de l'Aquanity sur la récupération de la marche, quel est le rôle possible de l'imagerie mentale ou de l'entraînement mental ou de l'entraînement tout court dans la rééducation de la marche. Et la question, c'est quelles sont les données actuelles sur les mécanismes communs à la locomotion réelle imaginée. Et nous l'avions mentionné, mais je voudrais vous rappeler deux, trois résultats récents pour reprendre cette question un peu plus à fond aujourd'hui. D'abord, je voudrais vous rappeler que nous avons déjà, il y a un certain nombre d'années, puisque notre premier article date de 1996, démontré les mécanismes anticipateurs dans la locomotion et le rôle en particulier lorsqu'on fait une trajectoire locomotrice, lorsqu'on va autour d'un coin, le rôle du regard avec cette hiérarchie qui se produit lorsqu'on produit un changement de direction, avec l'œil partant en premier, la tête ensuite et le corps enfin. Et cette révolution qui se produit chez l'enfant, qui commence par faire lui avec les pieds et la tête suit, et cette inversion en quelque sorte qui se produit en même temps que la stabilisation de la tête, cette inversion dans les hiérarchies du contrôle. Et nous avions à l'époque avec nos collègues formulé l'hypothèse que la raison pour laquelle l'œil part et ensuite la tête et le corps, c'est qu'il y a une véritable simulation mentale de la trajectoire, et nous avions proposé l'idée que les structures du cerveau impliquées dans la simulation mentale, comme par exemple des trajectoires dans l'espace, comme par exemple l'hippocampe en particulier, pourraient être impliquées dans ce guidage de la locomotion et son intégration avec le geste. Il y a des données récentes comportementales, comme par exemple cet article de Jack Loomis de Santa Barbara, qui est un grand spécialiste de ces questions avec l'équipe de Bülthoff en Allemagne, publié en 2009, qui ont suggéré dans une tâche que j'ai mentionnée lors d'un des cours dans lequel on pointe vers une scie. Par exemple, si je pointe vers ce plateau et que je marche en continuant à pointer, voilà la tâche, je pointe là et je continue à pointer, ils ont montré une certaine différence entre pointage locomotrice, entre la perception et l'imagination. Nous en avions déjà parlé une fois. Je vous rappelle aussi cette image, ce résultat que j'ai montré, obtenu dans des travaux d'imagerie cérébrale en IRM par Iseki et al., publié en 2008, qui ont identifié les structures dans le cerveau impliquées soit dans l'imagination de la marche, soit dans l'observation de la marche. Je passe rapidement puisque nous l'avions montré. Et ces travaux de l'équipe de Thomas Brandt à Munich, sur lesquels nous allons nous arrêter une seconde, sur les aires du cerveau qui sont impliquées dans l'imagination d'un trajet autour d'un coin, c'est-à-dire exactement ce que je viens de faire ici, le sujet de tourner autour d'un coin. Et ils ont comparé dans des protocoles complexes et extrêmement intéressants les postures immobiles, la marche en ligne droite et autour d'un coin. Ce qui est intéressant pour nous ici, c'est les résultats, à savoir l'activation qu'ils ont trouvée du putamen, contralatéral à la direction de la rotation, des noyaux codés, tout ça, ça n'est pas surprenant, les structures sous-corticales impliquées dans l'action, bien que dans le noyau codé, bien que cela soit mal connu dans la littérature, Sinévinner, dans notre laboratoire, a découvert des neurones de direction de la tête et que Yaria a démontré l'implication du noyau codé dans des tâches de navigation égocentrée. Et par conséquent, l'implication du noyau codé dans ce type de tâches ne veut pas dire qu'il s'agit uniquement d'une implication motrice, mais peut-être aussi d'un rôle de ce noyau dans la programmation, dirions-nous, ou l'initiation mentale de la direction désirée de la trajectoire. On est là, vous voyez, aux frontières avec ce qui est cognitif. Des activations qui étaient surprenantes, mais pas vraiment si on connaît bien la littérature, du parahippocampe, structure importante puisqu'on l'active lorsque on présente à un sujet des bâtiments, des lieux. Et si vous vous rappelez le chemin que vous avez fait depuis l'entrée du collège jusqu'ici, qui est un de mes exemples favoris, eh bien, vous vous souvenez de l'entrée, vous avez vu des endroits, des lieux, et le parahippocampe est impliqué dans ces vues. Ce n'est pas étonnant de le trouver lorsqu'on essaye d'imaginer des changements de point de vue, notamment, et le gyrus fusiforme. Mais aussi, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est des déactivations qui sont trouvées dans des aires, et en particulier dans des aires qui peuvent être associées au fonctionnement vestibulaire. Et c'est assez intéressant aujourd'hui, bien que encore, à mon avis, un peu incertain pour l'interprétation, c'est extrêmement intéressant de trouver ces déactivations, notamment dans les structures vestibulaires, dans des tâches, même comme celle de la planification d'un tournant imaginé. Et j'aurai peut-être l'occasion de revenir sur cette question dans la dernière leçon. Alors, cette image, simplement, là, c'est vraiment pour les spécialistes qui voudraient voir les paradigmes. Ce qui est très intéressant dans le travail qui a été fait, et de remarquable, dans le travail qui a été fait par toute l'équipe, vous voyez, ils sont très nombreux, il y a les neurologues Brandt et Dietrich, il y a trois neurologues, ou peut-être plus, ou quatre, il y a les équipes d'imagerie, c'est qu'ils ont réussi à avoir un modèle de locomotion dans lequel ils faisaient marcher des gens pendant un bon moment, le long d'un couloir, et ensuite ils ont utilisé la caméra à émission de positons, en utilisant le fait qu'après la marche, pendant un certain temps, il y a une accumulation d'oxyglucose, etc., dans certaines structures, et qu'on peut donc, évidemment, on ne peut pas faire marcher les gens dans le PET scan, mais on peut les faire marcher avant pendant un bon moment, et ensuite profiter de cette période dans laquelle l'activité est maintenue pour voir les structures qui ont été activées pendant la marche. Et ils ont aussi, pour la locomotion imaginée, utilisé l'imagerie par résonance magnétique, qui, elle, est un outil extraordinaire que nous utilisons, nous, ici, pour la partie imaginée. Donc, cette équipe a réussi à combiner, en fait, toutes ces méthodologies pour ce travail et pour aboutir au résultat que vous voyez ici. C'est tout à fait remarquable, et en même temps, ça montre à quel point, aujourd'hui, pour arriver à avoir des modèles physiologiques de ces opérations complexes, aussi bien cognitives que motrices, eh bien, il faut vraiment se mettre ensemble, les médecins, les ingénieurs, les physiciens, les psychologues, etc., mais que si on y arrive, eh bien, on a des réponses extrêmement intéressantes et qui donnent des schémas comme celui-ci que j'ai évoqué très rapidement dans la première leçon. Et ils ont donc suggéré que deux réseaux, en partie communs, mais en partie différents, sont impliqués dans la planification et l'exécution de la marche, en même temps que certaines structures sont communes ou différentes dans l'imagination et dans la réalisation. Et vous voyez ici les schémas avec l'implication du thalamus, le cortex primaire, le cervelet, la moelle, etc. Ils sont en train de constituer une véritable anatomie fonctionnelle de la comparaison entre ces activités imaginées et motrices qui vont être extrêmement utiles pour interpréter les données comportementales, comme celle, encore une fois, que va montrer le professeur Forsberg tout à l'heure, pour lequel lui aussi vous montrera des données extrêmement passionnantes. Et je voudrais insister un tout petit peu sur un résultat passionnant, qui est l'activation de l'hippocampe qu'ils ont montré dans des expériences dans lesquelles ils ont comparé la station debout, la locomotion, chez des sujets sains, des sujets aveugles et des sujets vestibulolésés. Et évidemment, tout ça est extrêmement intéressant parce qu'on a attribué à l'hippocampe souvent une fonction purement cognitive. Et là, il y a maintenant un questionnement, puisqu'on trouve l'activation de différentes régions. Et leur travail est très joli à cause de cela, car ils ont réussi à montrer des différences entre chez les sujets sains. La station debout était associée avec une activation hippocampe antérieure. Pendant la locomotion, une activité large sur le para-hippocampe droit. Chez les sujets aveugles, il y a moins d'activité dans le para-hippocampe droit, etc., etc. Donc, une véritable anatomie fonctionnelle maintenant qui, en même temps, permet de regarder chez ces différents types de patients l'implication dans la même tâche de différentes structures, et donc la diversité, en quelque sorte, qui nous intéresse aussi beaucoup dans la façon dont ces différentes pathologies vont impliquer ces différentes structures. Et voici un autre exemple de résultats qui montrent les différences d'activation entre le contrôle et les patients chez les sujets aveugles ou les sujets ayant des lésions vestibulaires dues à des neurofibromatoses, avec, comme vous le voyez ici, des implications de différentes parties de l'hippocampe. Donc on atteint maintenant une précision dans ces données qui est tout à fait extrêmement intéressante. Et ce qui est intéressant pour nous, pour moi en tout cas, pour notre groupe, c'est la comparaison de ces données sur la locomotion avec les données que j'ai eu l'occasion de montrer déjà depuis plusieurs années sur l'implication de ces différentes régions dans des tâches de navigation virtuelle sur lesquelles je reviendrai, purement cognitives, dans des tâches purement visuelles. Donc on a maintenant une espèce de rencontre, si vous voulez, entre cette description de l'activité de marche comme activité de navigation et bien sûr avec des discussions intéressantes sur la pathologie mais aussi sur les possibilités de remédiation. Voici une image qui rappelle les différentes fonctions possibles de cette région du cerveau avec l'hippocampe postérieur qui serait impliquée d'après ces auteurs comme espèce d'expert de la navigation, le parahippocampe impliqué dans la navigation avec des repères, l'hippocampe antérieur impliqué dans la mémoire spatiale nouvelle, etc., le parahippocampe antérieur, le subiculum où on trouve les neurones de direction de la tête, le cortex entorhinal où sont trouvés les neurones de grille qui font forme cette espèce de grille du sol, etc. Donc, une rencontre tout à fait remarquable pour nous, en tout cas, et tout à fait nouvelle, entre ce dont j'ai pu parler depuis 5 ou 6 ans sur l'implication de ces régions dans la mémoire spatiale, dans les aspects cognitifs de navigation, et tout d'un coup, maintenant, ces aspects plus locomoteurs ou moteurs et une différence chez les patients. On a vraiment des résultats extrêmement intéressants. Alors, chez la personne âgée, pour terminer cette série de données, je vous rappelle que les déficits sont très connus, des déficits posturaux, augmentation des oscillations, plus grande activité musculaire, réduction de la détection vestibulaire articulaire des mouvements du corps, etc., etc., faible force musculaire, diminution de la capacité du cerveau à intégrer des informations multisensorielles et à sélectionner des informations. C'est finalement la coordination des informations sensorielles et des mouvements. Et les déficits de la marche, diminution de la longueur du pas, ceux qui sont connus par la biomécanique, diminution de la vitesse de marche, détérioration du contrôle de la vitesse du centre de Mars, augmentation de la longueur du pas et du temps de balancement, qui sont des prédicteurs apparemment les plus robustes des chutes. Augmentation de la longueur du pas et du temps de balancement qui seraient les prédicteurs les plus robustes des chutes. Grande cause de mortalité chez la personne âgée. C'est un travail de Vergès et al., 2009, donc très récent, avec des observations comme celle que la diminution de la longueur du pas et de la vitesse de marche sont deux facteurs combinés avec un délai dans le mouvement du centre de Mars et suggèrent une stratégie de placement du pied et de la hanche pour exécuter des changements de direction. Toutes ces données sont au fond assez biomécaniques encore et la chose nouvelle qu'introduisent les données que j'ai rappelées il y a quelques instants, c'est aussi le rôle important de toutes les fonctions exécutives, cognitives, spatiales, en quelque sorte, dans la coordination de la marche et ce problème qui avait été vu si merveilleusement par Penfield il y a très longtemps, lorsqu'il avait étiqueté la jonction temporoparietale en disant que cette région, par exemple, était impliqué dans « body awareness and spatial relationships », c'est-à-dire dans la conscience du corps, le cortex vestibulaire, et dans la représentation du corps et les relations avec l'espace. Mais il manquait les fonctions exécutives. Or, aujourd'hui, évidemment, toutes ces données permettent peut-être de relier un petit peu ces différentes composantes de ce qui peut être le déficit. Alors, la récupération fonctionnelle après lésion, eh bien, il y a des données récentes des cliniciens sur le rôle de l'imagerie mentale je ne ferai que les parcourir, puisque là, encore une fois, nous aurons dans quelques instants un exposé sur l'entraînement aussi qui va vous éclairer sur cette question. Je montre ce tableau qui est illisible pour vous rappeler l'existence d'un très grand nombre de méthodes de rééducation, de réhabilitation, et ce qui est important pour ceux qui sont plus particulièrement intéressés par la littérature, c'est que c'est un très gros papier de revue générale a été publié par Peter Langholm dans Lancet, Lancet Neurology, en 2009, où vous trouverez toute une très large revue sur toutes ces méthodes avec des évaluations. Et ce que j'ai extrait de ces nombreux tableaux et de ces listes de toutes les méthodes, en quelque sorte, qui sont appliquées, vous voyez, intervention aux subcatégories, des approches neurophysiologiques, des entraînements bilatéraux, le biofeedback par l'électromyographie, la stimulation électrique, la thérapie de haute intensité. Il y a la pratique mentale ici, et j'ai été intéressé de voir que l'évaluation de l'efficacité de ces méthodes, eh bien, elles figurent en bonne place avec, en même temps, toutes les autres méthodes qui peuvent être utilisées, y compris les méthodes robotiques. Donc on assiste actuellement, évidemment, même si on s'intéresse, nous, plus particulièrement en ce moment, à cet aspect de l'entraînement et de l'entraînement mental, mais il y a une prolifération de méthodes. La grande difficulté actuellement, c'est celle de l'évaluation. L'évaluation, c'est-à-dire d'avoir des échelles internationales pour évaluer ces effets. Et vous trouverez aussi, d'ailleurs, dans un article publié en 2008 dans BMC Neurology, des résumés sur ces méthodes de training basées sur la pratique mentale qui essayent à la fois d'établir en quelque sorte des planifications et des évaluations de ces méthodes avec quelques données expérimentales comme par exemple cet article de 2009, vous voyez qu'il s'agit vraiment de travaux récents du groupe de Ramon Legarda publié dans un très bon journal, sur des modifications de l'activité de structure du globus pallidus interne après l'imagination motrice chez des patients de Parkinson. Il s'agit maintenant aussi d'une approche que je voulais mentionner, c'est le fait que chez des patients comme les patients de Parkinson, chez lesquels vous savez qu'on peut stimuler électriquement pour diminuer la rigidité parkinsonienne, les structures des ganglions de la base, eh bien, un certain nombre d'équipes de neurologie utilisent actuellement ces technologies aussi pour aller enregistrer l'activité en même temps dans ces structures et fournir par conséquent des données intéressantes pour suivre l'évolution. Et un autre article de 2007 qui a étudié des modèles de récupération et ont montré des réorganisations spécifiques dans le cortex prémoteur de l'homme au cours de la récupération fonctionnelle après des accidents vasculaires cérébraux. Donc, toute une littérature actuellement qui montre dans des structures, ici le cortex singulier moteur, les cortex prémoteurs, etc., l'effet de ces lésions. Alors ici, ça n'est pas une expérience qui a été faite avec des lésions, c'est un travail que je vous cite parce que il est en fait une expérimentation faite par ces sujets sur une lésion, c'est pas une lésion, justement une perturbation expérimentale par stimulation magnétique transcrânienne. La TMS, vous savez qu'on peut mettre sur le crâne des solénoïdes qui vont transmettre au cerveau une stimulation électrique. Cette transitoire, cette méthode est utilisée d'ailleurs largement en neurosciences actuellement pour regarder la fonction de chacune de ces structures. Et cette équipe a utilisé cette technique pour créer en quelque sorte une lésion ou une disturbance, une perturbation transitoire, et ils ont regardé la récupération ou les modifications qui se produisent dans le cerveau après cette perturbation. Donc il y a aussi ces méthodes expérimentales et puis d'autres données qui existent actuellement sur ces réorganisations dont va nous parler de nouveau le professeur Forsberg dans un instant. Voilà, je termine là pour aujourd'hui. Et nous, dans la leçon, la prochaine fois, nous aborderons, entre autres, une question tout à fait intéressante, à mon avis, qui est celle de l'effet de l'enrichissement du milieu sur la récupération et la compensation de lésions. Et cette question m'avait beaucoup intéressé il y a déjà plus de 30 ans, lorsque des professeurs de gymnastique du lycée de Montgeron, qui est un lycée qui recueille des enfants amblyopes, qui sont classés comme aveugles, ils lisent en braille, ils ont une canne blanche, il leur était interdit de faire la gymnastique, et ces profs de gym leur faisaient faire non seulement de la gymnastique, mais ils les faisaient jouer au ping-pong. Et ils étaient venus me voir avec une vidéo, on était très jeunes, on était dans le premier laboratoire où j'étais autrefois au Cordelier, avec une vidéo dans laquelle il y avait deux équipes qui jouent au basket. Et ils nous ont demandé de trouver quelle était l'équipe qui était formée de ces enfants amblyopes, soi-disant aveugles. Et on n'avait pas réussi. Et ça nous avait absolument bouleversés. Et pendant 3 ou 4 ans, j'ai travaillé avec eux. Nous n'avons jamais rien publié parce que ces profs-là, eh bien, ils avaient rempli un gymnase d'objets, ce qui était totalement interdit, puisqu'il ne fallait pas normalement que ces enfants s'abîment. Et il faisait faire de la gym à ses enfants dans un milieu spatialement enrichi. Et plus ça allait vite, en plus, plus c'était bon. Ils jouaient au basket, ils jouaient au ping-pong. Et c'était vraisemblablement parce que ces enfants étaient aveugles corticaux, mais ils avaient le colliculus supérieur intact. Et or, c'est chez l'homme, le colliculus supérieur, comme chez l'oiseau, comme chez l'animal, qui est sans doute la structure la plus importante pour détecter des mouvements rapides. Et ils avaient donc mis en place des mécanismes qui leur permettaient de faire des choses tout à fait étonnantes, alors que les ophtalmos ne les mettaient qu'en face d'un écran pour regarder des lettres. Et donc, ce problème de l'enrichissement, c'est une anecdote, mais ce problème de l'enrichissement dans les milieux d'entraînement et dans les milieux de vie, c'est un problème déjà ancien, a connu depuis peu de temps des données tout à fait intéressantes sur lesquelles nous reviendrons. Je vous remercie et je vous incite à rester pour l'exposé du professeur Forsberg. Hans Forsberg est un des meilleurs spécialistes, des grands spécialistes mondiaux du développement des fonctions motrices et cognitives chez l'enfant. Il vient de Stockholm, de l'Institut Nobel, l'Institut Karolinska, et il vous présentera en anglais des données tout à fait remarquables, mais j'ai traduit sa présentation en français, et il y aura donc une double présentation avec à droite les diapos en français et à gauche les diapos en anglais, de façon à ce que ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec l'anglais puissent saisir l'essence des choses intéressantes qu'il va nous montrer. 5 minutes de pause et à tout de suite.